La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au IIe siècle avant notre ère. En matière de tradition funéraire, la crémation va devenir la norme au sein des populations de Gaule septentrionale. Toutefois, quelques sépultures à inhumation d'adultes et d'enfants de plus d'un an sont signalées, ça et là, dans nos régions, notamment à Tongres ou à Tournai. Alors, on a vu dans ces inhumations la persistance de traditions pré-romaines, mais il est difficile de soutenir cette thèse parce que la pratique de ce type funéraire avait disparu depuis près de 3 siècles. Pourquoi est-on passé de la crémation à l'inhumation? Cela fait débat encore de nos jours. Influence grandissante des cultes orientaux ou montée en puissance du christianisme, c'est ce que nous allons tenter de comprendre en vous emmenant aujourd'hui du bûcher à la tombe.
Une large fosse quadrangulaire de 2,10 m à 2,40 m de côté apparaît. Il s'agit d'un bûcher funéraire ayant servi à la crémation d'un ou plusieurs défunts.
Ici, un chantier de fouilles sur un bûcher funéraire, on est dans le Puy de Dôme. Nous, on va aussi s'intéresser à nos régions avec Frédéric Anu. Bonjour Frédéric Anu.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, céramologue et vous êtes le commissaire de l'exposition du bûcher à la tombe qui se tient en ce moment au musée de l'archéologie d'Arlon. Alors la crémation ou incinération sont les deux grandes pratiques funéraires attestées par l'archéologie. On retrouve des traces de ces rites jusqu'à quand on peut remonter?
Disons que les premières sépultures, elles sont attestées déjà au paléolithique moyen, donc une période qui va de 250 000 à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et là, on est chez les Néandertaliens, donc on sait que déjà les Néandertaliens inhumaient déjà leurs morts, mais ce sont des inhumations. Mm-hmm. Pour avoir les premières crémations, il faut attendre le mésolithique, donc ce qui suit le paléolithique. On est toujours à préhistoire, c'est une période qui s'étend environ de 8500 à 5000 avant Jésus-Christ, juste avant la révolution néolithique. Et donc là, on a déjà des crémations, même si chez nous, elles ne sont pas vraiment attestées, elles le sont dans des régions proches de chez nous, notamment dans le Jura ou dans la Somme. Et on va régulièrement passer au cours de l'histoire, en fait, à des phases d'inhumation et de crémation, et à la proto-histoire, donc à la période des âges de métaux. Au bronze ancien, on est encore avec des inhumations, mais à partir du bronze moyen, donc au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on voit que la crémation va s'imposer de plus en plus, d'abord dans des tumulus, hein, ce sont des grands tertres, ouais, qui sont entourés avec des talus, des fossés, et puis par la suite au bronze final, où là on va avoir la civilisation des champs d'urnes, et là la crémation devient majoritaire chez nous.
Alors c'est quoi cette civilisation des champs d'urnes précisément? C'est une appellation un peu vieillie, c'est ça?
Tout à fait, oui, c'est une appellation un peu démodée, mais tout le monde dans le milieu des archéologues sait de quoi on parle quand on évoque la civilisation des champs d'urnes. On parle maintenant plutôt de culture Reims, Suisse, France orientale, donc RSFO. Et en fait, c'est une culture archéologique qui se développe au bronze final. Donc, on est là entre 1350 et 800 avant Jésus-Christ et qui touche les régions du Rhin, l'est de la France, mais qui s'étend vers le nord jusqu'en Wallonie, notamment dans le Namurois. Et un site emblématique de cette culture, c'est en Surlesse. Mais alors, les rites funéraires à cette époque-là, justement, on abandonne les grands tumulus pour des cimetières, de véritables nécropoles qui regroupent parfois des dizaines, voire même une centaine de sépultures. Et là, ce sont des sépultures plates qui sont plus vraiment recouvertes par un tertre, ouais, dans lequel on retrouve une crémation. Les restes sont conservés dans un vase ossuaire et avec un mobilier d'accompagnement qui est relativement pauvre. Et ces cimetières, ces champs d'urnes vont être occupés même encore jusqu'au premier âge du fer, jusqu'au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ.
On reviendra notamment sur l'aménagement tout à l'heure avec vous, Frédéric Anu. Pourquoi est-ce que l'inhumation a tantôt supplanté la crémation et vice-versa? On a des réponses à ça?
Pas vraiment. Disons que on peut penser que les mentalités ont un peu évolué au cours de l'histoire. On peut penser à des influences extérieures, mais pour l'époque romaine, c'est bien clair que à l'époque romaine archaïque, disons que au 7e, 6e siècle, on avait la crémation était un peu la tendance. À partir du 5e siècle, on constate que les Romains vont plutôt privilégier l'inhumation, notamment pour l'élite déjà dans des sarcophages. On connaît notamment notamment le tombeau des Scipions. On a de magnifiques sarcophages qui sont conservés au musée du Vatican. Mais à partir du 1er siècle, les Romains vont privilégier la crémation. Mais ce ne sont pas des changements absolus. Et même lorsque, dans une période où on a davantage de crémation ou d'inhumation, on a toujours l'autre rite qui est présent. Et pour les Romains, on a plutôt considéré que c'était un changement de mode. En tout cas, il n'y a pas de motivation métaphysique, religieuse à ces changements.
On a quand même un personnage qui est important à Rome, qui est le dictateur Sylla. Donc là, on est au 1er siècle, hein, oui. qui va, pas imposer, mais enfin ramener un peu le rite de la crémation. C'est par peur, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est les auteurs anciens, notamment Pline et Cicéron, qui évoquent, qui essayent d'expliquer pourquoi, à leur époque, on recourt davantage à la crémation. Et une des raisons, ils évoquent d'abord notamment aussi le problème des soldats qui étaient morts à l'étranger, donc ça arrivait souvent lors des conquêtes de la République à l'extérieur, et que de peur que les soldats soient déterrés, on privilégiait la crémation. Et aussi Cornelius Sylla, dont le dictateur, on est là au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, a eu recours à la crémation parce qu'il avait peur que sa sépulture soit profanée, qu'on disperse ses restes, comme ce qu'il avait infligé, ouais, à son ennemi politique, Caius Marius, qui était le partisan de la tendance populaire, démagogue, au sein de la République romaine. On avait ces deux factions qui s'affrontaient. Et donc, ce serait lui, d'après Cicéron ou Pline, qui aurait réintroduit auprès de l'élite, l'aristocratie romaine, cette tendance.
C'est-à-dire, ouais, alors là, on a des funérailles, des rites qui sont grandioses.
Hein. Ah oui, tout à fait. Donc là, la crémation, on va avoir des cortèges somptuaires. Et donc là, il y a vraiment une dimension très ostentatoire, avec toute une pompe. Et puis, le bûcher, hein, qui élève le défunt dans sa gloire, avec toutes sortes d'offrandes qui sont déposées sur le bûcher. Et on peut établir un parallèle entre ces funérailles grandioses de la fin de la République et les funérailles homériques, notamment celles d'Achille, Patrocle, Ajax. On a vraiment une tendance, et notamment chez Virgile, on a le passage des funérailles du Troyen Misène. Et là, c'est vraiment un témoignage indirect de ces funérailles somptueuses qui avaient lieu à la fin de la République. On songe aussi aux funérailles de César, ouais, sur le Champ de Mars, qui ont frappé, hein, l'imagination et la population à l'époque.
Avec des bûchers qui peuvent faire 3-4 étages, des torches, même en plein jour, qui figurent les ténèbres.
Exactement. Oui.
Il faut savoir aussi avoir en tête que dans l'Antiquité, la crémation, le fait de brûler le corps, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est pour faire disparaître totalement et rapidement un corps. À l'époque, c'est pas ça.
Non, non. C'est plutôt, on cherchait à assurer par le feu une transformation rituelle du cadavre. C'était, on brûlait pour devenir quelqu'un d'autre. Et on retrouve cette motivation chez certains peuples actuels qui ont toujours recours à la crémation, mais pour des raisons foncièrement culturelles, mm-hmm, ou religieuses, en Inde, au Népal, au sud-est asiatique, même en Sibérie. On retrouve cette idée de vraiment de changement de statut par le bûcher.
Rite funéraire du bûcher à la tombe à l'époque gallo-romaine, nous sommes avec Frédéric Anu.
Ce squelette est venu recouper une autre tombe située juste derrière. Nous avons là, nous sommes au niveau du genou. Il nous reste tibia, fibula et le pied d'un autre individu adulte. Et sur cette tombe, on voit très bien l'association entre ces dépôts de chevaux, un crâne et un fémur, une vertèbre, qui sont déposés directement au contact de l'individu adulte qui a été inhumé dans la tombe.
Tous les jours, 13h30, 14h30. Un jour dans l'histoire.
Voilà, on est toujours dans cette tombe que l'on fouille dans le Puy de Dôme, au Martre d'Artières exactement. Nous sommes nous avec Frédéric Anu du Bûcher à la tombe. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment au musée de l'archéologie à Arlon. Frédéric Anu, alors dans le monde romain, la mort est une affaire de rites qui sont lourds de sens, hein. Ce sont des rites qui ont une obligation sociale. La mort, c'est quoi ? C'est une souillure au fond.
Tout à fait. Donc pour les Romains, c'est ça. La mort, c'est une souillure, et une famille qui est frappée par la mort d'un défunt est dite funeste. Et les rites funéraires ont pour but de purifier la famille de cette souillure, en même temps, parce que pendant le temps du décès et des funérailles, la famille subit une sorte de perte d'identité sociale. Elle est temporairement exclue de la communauté des vivants. Ils portent des vêtements, des tenues négligées. Et donc, les rites funéraires sont là pour, d'une part, assurer ce changement de statut au défunt, d'affirmer son altérité, mm-hmm, il devient autre, mais en même temps, assurer la cohésion sociale et permettre à la famille de se distancier de la mort et de retourner retourner finalement dans la vie sociale, quotidienne. Ouais. C'est ça.
Et si on ne rend pas ces devoirs réguliers, comme on appelle ça à l'époque, si on ne rend pas ces devoirs réguliers aux défunts, que deviennent-ils ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ben oui, c'est ça, il y a une expression, c'est les justa facere, donc faire les rites, faire les choses qui sont conformes à la tradition. Et donc, des défunts auxquels on n'aurait pas rendu les devoirs réguliers, auxquels on n'aurait pas rendu honneur, risquaient peut-être de devenir des esprits malfaisants, des morts insatisfaits. Et ça, c'était une grande hantise pour les Romains. On a notamment retrouvé ça dans la fouille de certaines sépultures, des rites de défense, qu'on appelle des rites de défiction, avec l'enclouage du défunt, de peur qu'ils sortent, qu'ils reviennent hanter les vivants. Et on avait notamment à Rome une fête qu'on appelle les Lemuria, qui était fêtée vers le 10-11 mai, qui permettait de chasser de la maison en fait, les morts insatisfaits. Et donc le père de famille faisait une série de rites un peu particuliers, notamment le jet de fèves par-dessus son épaule, qui permettait justement de protéger les vivants de ces esprits qui pouvaient être dangereux.
Ce sont des cérémonies privées, c'est-à-dire sans prêtre ?
Tout à fait. Alors la célébration des rites funéraires, elle est faite par la famille, elle n'est pas faite par les prêtres, c'est un culte totalement privé, c'est pourquoi on peut trouver différentes variantes et chacun interprétait un peu les rites à sa façon et les faisait de la manière où on l'a toujours fait au sein de la famille, comme les anciens le faisaient. Donc c'est pour ça que dans le monde romain, on peut avoir une multiplicité de variantes et à cela s'ajoute évidemment l'extension des rites funéraires dans les provinces qui ont été conquises par les Romains dans l'Empire, variantes familiales mais aussi variantes régionales. Les peuples qui ont été conquis ont gardé aussi une série de leurs traditions. Ouais. Et Rome n'a pas supprimé ça complètement. Et donc ça a aussi joué dans cette diversité finalement funéraire à travers le monde romain.
Alors vous le disiez, Frédéric Anul, le feu, donc pour purifier l'idée de la mort et le cadavre en lui-même, il y a aussi des parfums que l'on verse sur ce corps. Pourquoi ?
Alors oui, les parfums jouent un rôle très important lors des funérailles antiques parce que il y a deux maîtres mots en fait dans les funérailles à l'époque romaine, c'est la séparation et l'inversion. Donc les gens vont faire ce qu'on appelle contraria facere, faire les choses qui sont contraires, qui sont opposées. Et notamment les parfums, on s'oppose évidemment à l'odeur du cadavre et donc aux odeurs qui se dégagent du bûcher. C'est les parfums qui purifient aussi, qui purifient le bûcher et des parfums, des libations de parfums qui sont effectuées également sur le lieu même de la tombe pour purifier l'emplacement de la sépulture.
Et puis les membres de la famille qui, vous l'avez dit, sont exclus de la société. Vont adopter un comportement particulier.
C'est ça, tout ça dans le but d'assurer cette distanciation progressive au cours des funérailles avec le défunt et pour lui permettre de rejoindre finalement ce qu'on appelle les dieux manes, cette divinité collective qui réunit tous les morts, et le mort n'est qu'une petite entité dans un ensemble très collectif qu'on appelle les dieux manes. Et donc oui, comme vous l'avez dit, ils portent des tenues négligées, les funérailles se font en plein jour, mais avec des torches, avec des lampes, qui symbolisent évidemment l'entrée dans le monde des ténèbres, qui est le monde des morts.
Ouais. Et les Romains ont une vision de l'au-delà qui est particulière aussi, c'est pas réellement une renaissance, une réincarnation.
Non, c'est très très différent de la conception chrétienne de survie de l'âme après la mort. Donc les Romains, les rites funéraires ne s'intéressent pas à l'éventuelle survie dans l'au-delà. L'important, c'est justement d'assurer, c'est purifier la famille et de permettre aux défunts de changer de statut. On ne s'occupe pas vraiment de l'immortalité. On sait que rien ne disparaît complètement, mais dans la tombe, le défunt est presque rien. Hein, il est une ombre parmi les ombres. Et il y a notamment l'épigraphie mentionne que maintenant je suis mort, je n'ai plus de désir. Voilà. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'existence et ce qu'on a pu mener sur Terre.
Et d'ailleurs, les offrandes que l'on fait notamment aux défunts, les offrandes alimentaires par exemple, ce n'est pas pour le défunt.
Non, c'est ça. On a longtemps interprété ces dépôts alimentaires ou ces dépôts de vases comme un viatique, donc un moyen de subsistance du défunt dans son voyage vers les enfers, puisque les défunts appartiennent aux enfers, au monde d'en bas, et non pas, ils ne montent pas dans les cieux. Et donc, en fait, non, ce sont des dépôts tout à fait symbolique. Les Romains savaient très bien que les morts, une fois morts, n'avaient plus besoin de ces vases. Mmh. Donc, mais ce sont des dépôts symboliques qui sont souvent très systématiques et qui symbolisent plutôt le banquet funéraire, qui est très important, qui lui, justement, purifie la famille, ce qu'on appelle le silicernium, et aussi tous les banquets que la famille va reproduire après la mort, lors des fêtes commémoratives, notamment lors des parentalia, la fête des morts, qui a lieu au mois de février, mais aussi le jour de l'anniversaire du défunt. Donc les familles reviennent sur les tombes. Et si le défunt survit, c'est finalement surtout à travers le souvenir. Ouais. Et donc le but, les cultes funéraires, c'est aussi pour entretenir la mémoire du défunt.
Du bûcher à la tombe, nous sommes avec Frédéric Anu.
Bonsoir mes petits chats.
Bonsoir maman.
Bonsoir. Soyez prudents.
Bonsoir toi.
Bonjour messieurs, dames. Je cherche des amis. Alors je sais pas. Ils m'ont dit que je trouverais. Ils se réunissent pour organiser des choses un peu spéciales.
Ah oui, ça c'est spécial, ça oui. Oui.
Mais je sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes alors c'est...
Oui, enfin c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil?
Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide?
Non, c'est parce qu'ils m'ont dit que c'est secret, alors...
Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah autrement, bon? Tout le monde le sait.
Ah bon?
Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah bon?
Voilà pour le sourire. Hein. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, cette scène entre Coluche et José Arthur d'ailleurs qui vient de nous quitter hein, dans les catacombes. Donc, alors Frédéric Anu, vous l'avez dit, les peuples conquis par les Romains vont garder quand même malgré tout une partie de leur rite et notamment en matière d'immortalité de l'âme. Les Gaulois ont leur propre conception.
Oui, c'est ça. Donc certains auteurs antiques nous parlent en fait des conceptions de la vie après la mort chez les Gaulois et on voit que c'est quand même très différents. Notamment, ils croyaient une certaine immortalité de l'âme. On dit que les druides avaient des croyances pythagoriciennes. Ils croyaient notamment à la métempsychose, donc une sorte de réincarnation. Et un auteur antique, je pense que c'est Diodore de Sicile, mais je ne suis plus sûr, évoque que les Gaulois, lors des funérailles, jetaient sur le bûcher des lettres pour que le défunt adresse ses lettres à des parents déjà disparus. Donc, il y avait des croyances qui étaient très différentes. Et on voit aussi que les Gaulois, face à la mort, avaient des comportements qui étaient différents des Romains. Si les Romains essayaient d'éloigner la mort le plus possible du monde des vivants, les Gaulois avaient des gestes qui pouvaient sembler certainement barbares, notamment des restes humains pouvaient être exposés en public. Ils pratiquaient aussi le décharnement de certaines dépouilles. Et on connaît aussi par l'archéologie de véritables sanctuaires guerriers où, avec des mises en scène très macabres, où des guerriers tombés au combat étaient exposés, remis en scène avec leurs armes. Et on les laissait se décharner progressivement et ils tombaient dans des... dans des fossés qui se trouvaient juste en dessous.
On peut rapporter des parties de corps chez soi aussi, c'est ça ?
Ben, il y avait, oui, certains auteurs mentionnent aussi donc, le rite des têtes coupées. Hein, donc, les guerriers qui ont été vaincus au combat, on pouvait prélever leurs têtes et on pouvait les ramener jusque dans leur maison. Alors, les guerriers les plus prestigieux, même, on embaumait leurs têtes. Voilà.
Alors, lorsqu'on a brûlé les corps, qu'est-ce qu'on fait des ossements ?
Alors ben voilà, donc là c'est justement là les sources littéraires sont beaucoup plus muettes à ce sujet. Donc, mais ce qui se passe généralement, c'est qu'après la combustion du bûcher, on venait prélever une partie des ossements, jamais la totalité. Ça c'est assez curieux. On constate que dans la tombe, on a des quantités parfois très limitées d'ossements. Donc les ossements étaient débarrassés des impuretés du bûcher, charbon de bois. Certains auteurs disent qu'on les trempait dans le vin. Ils étaient nettoyés avec du vin. Et on les mettait dans un contenant, le plus souvent c'est un vase en céramique, c'est un vase qui a été trouvé dans la cuisine quotidienne et qui est réutilisé comme urne, mais on connaît comme urne aussi des vases beaucoup plus prestigieux comme des vases en pierre ou des pièces en verre ou même en métal, en plomb notamment, et ils étaient déposés dans la tombe avec parfois un mobilier d'accompagnement qui symbolisait lui généralement le banquet funéraire.
Avec certaines tombes qui sont aménagées aménagée ou, je dirais, renforcée par des espèces de travaux de maçonnerie ?
Oui, c'est ça. Alors, chez nous, dans les nécropoles, la plupart des tombes consistent en simples fosses qui sont creusées en pleine terre, sans aménagement particulier. Mais dans certaines régions, notamment quand la géologie le permet, notamment en Ardennes, en Gaume, on voit qu'on a des aménagements avec coffrage en pierre. Ce sont les fameuses tombes à l'oculus. Et donc là, le mobilier funéraire, les cendres sont protégées par une sorte de coffrage, de dalles en pierre qui forment les quatre côtés de la tombe, avec même aussi une dalle de couverture au-dessus pour protéger la sépulture.
Est-ce qu'on peut parler de cimetière, au sens où on l'entend aujourd'hui, avec un cadre délimité en dehors d'un village, ou comment ça se passe ?
Alors oui. Alors, en ce qui concerne les agglomérations, c'est très clair. Les cimetières se développent essentiellement le long des principaux axes de communication, à l'extérieur de l'habitat, pour les grandes villes, à l'extérieur des enceintes. Dans le monde rural, c'est plus compliqué. On voit que la séparation entre les habitats, les vivants et les morts est plus complexe. Donc on a parfois des rapprochements donc, par rapport à certains établissements agricoles. Mais la tendance quand même est d'établir le long des axes routiers. Mais on peut en retrouver aussi sur des sites paysagers majeurs qui dominent un peu le territoire et qui était bien visible.
Ah oui, c'est ça, les tombes sont signalées.
Alors oui, c'est vrai que maintenant la plupart des nécropoles sont fortement érodées et les niveaux de circulation de l'Antiquité ont complètement disparu. Mmh. Donc on n'a plus que quelques fosses qui sont parfois conservées sur quelques centimètres avec des vases qui sont souvent scalpés par la charrue. Mais dans l'Antiquité, on voit que ces fosses ne sont pas recoupées. Donc ça veut dire qu'elles étaient certainement signalées en surface par des stèles qui ont parfois été récupérées et qu'on ne l'a plus, mais parfois par de simples monticules, par une tuile qui était posée au-dessus, par une amphore, par quelques statuettes, par quelques céramiques, voilà. Donc, elles étaient signalées.
Oui. Céramiques, par exemple, quand on dépose les céramiques à l'intérieur des tombes, elles sont cassées. Est-ce que ça a un sens ?
Alors oui, donc ça, c'est vraiment des offrandes aux dieux Man, les inferiae. Hein. Donc, quand on fait une offrande aux dieux infernaux, comme les divinités Man, on jette les offrandes par terre et elles se brisent. Donc, c'est vraiment le bris rituel. Mais on a d'autres manipulations qui sont faites sur les vases, notamment des perforations très soignées. Alors le but, c'est pas que de rendre inutilisable le vase pour qu'on quelqu'un viendrait perturber la tombe et récupérer l'objet, parce que d'abord les tombes sont des lieux sacrés, hein, et donc ils sont protégés par la juridiction et ils sont liés à la collectivité par des obligations rituelles. Mais c'est surtout pour montrer qu'ils sont marqués par la souillure de la mort et donc ils ne peuvent plus réintégrer la vie. Et donc ces perforations, ces mutilations sont une forme de sacrifice. Et d'ailleurs, on les retrouve aussi, ces mutilations, dans les sanctuaires. C'est la même idée de sacrifice que l'on fait au dieu Man.
Du bûcher à la tombe avec Frédéric Anu, on va s'intéresser au sort aussi que l'on fait aux petits-enfants qui meurent.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire.
Ici, nous sommes en présence d'un sujet adulte qui présente la particularité d'avoir été inhumé avec deux crânes de chevaux disposés tête-bêche qui viennent en fait lui enchâsser le crâne. Il y a peut-être une raison religieuse à avoir disposé ces crânes ainsi. Ça peut aussi être une fantaisie du fossoyeur, ou tout simplement un geste pratique. Pour caler le crâne, on utilise ce que l'on a sous la main, donc pourquoi pas, en l'occurrence, deux crânes de chevaux.
Alors, qu'en est-il de la mort des enfants dans les sociétés antérieures à la révolution industrielle et au développement de la vaccination? On estime qu'environ la moitié de ces petits-enfants meurent au cours de leur première année. L'un des premiers facteurs de cette mortalité élevée est la diarrhée d'origine virale ou bactérienne. Alors, que sait-on, Frédéric Anu, des funérailles de ces enfants?
Alors, on constate que ces enfants qui sont morts en bas âge, on parle de périnataux, ils n'avaient pas droit aux mêmes gestes funéraires que la majorité des autres défunts. Notamment, les auteurs nous montrent qu'on n'incinérait pas les enfants avant la venue de leur première dent, la poussée des dents. Et donc, d'autres auteurs parlent d'enfants qui sont trop jeunes pour le bûcher. Et donc, eux, on leur réservait un sort plus particulier. Ils étaient inhumés. Parfois, et on les retrouve difficilement dans la fouille des cimetières. Ça prouve qu'il y avait des secteurs réservés à ces enfants. On en a retrouvé notamment à Soissons ou à Alésia, où là, on n'a que des inhumations d'enfants décédés avant l'âge d'un an, enfin 7-8 mois. Je crois que les premières dents apparaissent plus ou moins à cette période. Et donc, voilà. Donc, et même parfois, on les retrouvait dans l'habitat. Mmh. Et ça, c'est une tendance qui est déjà attestée déjà depuis l'âge du bronze et qu'on retrouve dans toute l'Europe, même sous le seuil des habitations.
Dans les murs.
Dans les murs, oui, c'est ça. Mais cela montrait que on ne rejetait pas ces enfants, on voulait les maintenir dans la maison, dans la vie quotidienne. Ouais. Voilà.
Et c'est intéressant parce que ces dispositions témoignent effectivement du lien affectif qui unit les hommes de cette époque à leurs enfants, alors qu'on a tendance à dire que l'enfant était considéré au fond comme, voilà, comme un être sans cervelle, enfin sans identité au fond.
C'est ça. Ben, non, je pense que le poids affectif était quand même fondamental, comme tout le monde. Enfin, je peux perdre un enfant très jeune à l'époque gallo-romaine, c'était tout aussi douloureux que maintenant. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains auteurs sont un peu moralisateurs et encouragent au stoïcisme, mais on constate dans les rites funéraires et l'archéologie montre que ces enfants avaient droit à des honneurs particuliers. On leur faisait des offrandes et même parfois des offrandes très symboliques comme des petites statuettes qui étaient apotropaïques, qui étaient destinées à les protéger. Et donc, on voyait qu'il y avait beaucoup d'intimité, beaucoup d'attention portée à ces sépultures d'immatures.
Les témoignages sont nombreux en Wallonie, Frédéric Hanu, de ces sépultures, de ces nécropoles.
Alors, au niveau funéraire, oui, on connaît quand même des quantités importantes de nécropoles sur notre territoire, un peu partout dans les cinq provinces wallonnes, et certaines sont parfois très importantes. Je crois que la plus grande nécropole qui a été fouillée dans le Benelux, malheureusement, c'est pas en Wallonie, c'est à Tirlemont. Là, on compte plus de 1000 sépultures. Généralement, les nécropoles qu'on retrouve, ce sont des petites nécropoles rurales d'une dizaine de trompes, mais on en retrouve quand même partout, et on continue d'en fouiller. C'est pour ça qu'on a organisé cette exposition, c'est parce que justement dans les 15 dernières années on a fait de nombreuses trouvailles grâce à l'archéologie préventive, le développement de l'archéologie préventive, on tombe de plus en plus sur ces cimetières et une quantité de documentation apparaît maintenant.
Quel sens donner au retour de cette pratique de la crémation aujourd'hui au XXIe siècle ?
Alors oui, c'est ça, on a voulu un peu terminer par un clin d'œil. C'est vrai que après l'Antiquité et finalement on a constaté que, et puis avec le poids de l'Église, chez nous, on a essentiellement inhumé. Hein, la crémation était même condamnée par l'Église, notamment sous Charlemagne. Mais que depuis le 19e siècle, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, on constate qu'en Occident, en tout cas, la crémation revient de plus en plus. Et je trouvais que c'était intéressant d'envisager ce retour comme l'archéologue pourrait l'envisager et de voir pour quelles raisons, finalement, les gens, nos contemporains, se tournent de plus en plus vers la crémation. On constate qu'elle est plus présente dans les villes que dans les campagnes. Donc il y a moyen de regarder ça sous l'œil d'un archéologue ou d'un sociologue et voir son évolution et les causes de ce retour finalement assez spectaculaire.
Et cela, on va pouvoir le faire réfléchir avec vous en allant donc à cette exposition du bûcher à la tombe au musée de l'archéologie à Arlon. Et puis il y a c'est jusqu'à quand cette exposition ?
C'est jusqu'au 22 mars.
Jusqu'au 22 mars et puis deux publications. Hein, le catalogue de l'expo du bûcher à la tombe, les nécropoles. Nécropole gallo-romaine à incinération en Wallonie, c'est publié par le service public de Wallonie.
Oui, tout à fait.
Et puis un autre catalogue, la nécropole gallo-romaine de la place de la Wallonie à Jambes. Voilà, ça aussi publié par le service public de Wallonie. Merci beaucoup, Frédéric Hanu.
Merci à vous.